VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bienvenue à l'édition du 9 juin 2015, à la une ce soir.
L'ONU met en garde contre une recrudescence de la violence au Burundi, alors que le pays attend toujours un calendrier électoral définitif.
Au Bénin, réaction à la déclaration du président Thomas Boni Yayi, selon laquelle il ne sera plus candidat dans son pays.
Par principe, il n'est pas possible, voire facile, pour un président sortant de vouloir briser la règle de mandat au Bénin. C'est trop compliqué.
Maître Sadikou à la haut de Gerdes Afrique.
Nous parlerons d'une importante rencontre à Abuja entre des chefs d'état-major de 5 pays engagés dans la lutte contre Boko Haram.
Et nous reviendrons sur les consultations en RDC entre le président Kabila et les dirigeants de la classe politique et de la société civile.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Les Burundais toujours dans l'attente du nouveau calendrier électoral. Sur le plan des droits humains, la situation est toujours très sensible. Les violences croissantes des Imbonerakure pourraient faire basculer le Burundi. C'est l'avertissement lancé ce mardi par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Des précisions avec Nicolas Pineau.
Oui, le prince jordanien Zayed Raad al-Hussein a fait part de sa préoccupation face aux actions de plus en plus violentes et menaçantes de la milice pro-gouvernementale au Burundi. Ce sont ses mots. Chaque jour, nous recevons 40 à 50 appels de tout le pays lancés par des gens terrifiés à la recherche d'une protection ou souhaitant rapporter des abus, a indiqué le haut-commissaire. Le diplomate exhorte les autorités de Bujumbura à prendre des mesures concrètes et immédiates pour mettre au pas les Imbonerakure. Zayed Raad al-Hussein a en partie fondé ses remarques sur le témoignage détaillé de 47 réfugiés burundais interviewés ces dernières semaines par du personnel onusien des droits de l'homme dans des camps de réfugiés situés au Rwanda et en République démocratique du Congo. Il a aussi demandé aux dirigeants de l'opposition de freiner les éléments violents qui pourraient se former de leur côté. C'est dans ce contexte que les Burundais attendent toujours la publication du nouveau calendrier électoral. Comme le révélait dès la semaine dernière VOA Afrique, la CENI a proposé la tenue de la présidentielle le 15 juillet prochain.
15 personnes ont été tuées dans une attaque du groupe islamiste Boko Haram contre un village reculé du nord-est du Nigeria, où plusieurs maisons ont été totalement incendiées, ont déclaré aujourd'hui plusieurs habitants à l'AFP. La lutte contre Boko Haram fait justement l'objet d'une réunion à Abuja des chefs d'état-major du Nigeria, du Niger, du Tchad, du Cameroun et du Bénin, avant le sommet des chefs d'état des mêmes pays. Écoutons les précisions d'ici à Kaba.
Les pays alliés contre les salafistes qui sévissent dans la région du lac Tchad visent à restructurer leur force afin de la rendre plus homogène. La force multinationale soutenue par l'Union africaine devrait avoir son quartier général à N'Djamena en novembre sous commandement nigérien. Depuis le début de leur coopération militaire, le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun ont enregistré des succès contre les salafistes armés au niveau de leurs frontières communes, des succès qui se sont multipliés ces derniers temps. Le nouveau président nigérien, Muhammadu Buhari, s'est engagé à vaincre l'insurrection de Boko Haram qui a fait des milliers de victimes dans le nord-est de son pays. Dans le cadre de cette lutte, M. Buhari a ordonné le transfert du centre de commandement de l'armée nigériane d'Abuja à Maïdougouri et il s'est rendu en visite au Niger et au Tchad. Il a également pris part au sommet du G7 tenu en Allemagne pour solliciter un plus grand soutien de la communauté internationale contre Boko Haram, surtout en matière de renseignement et de formation.
En RDC, des personnalités de l'opposition et de la majorité présidentielle continuent de faire le va-et-vient au Palais de la Nation, dans le cadre des consultations initiées par le chef de l'État, Joseph Kabila. Le point de cette deuxième semaine de consultation avec Eric Ambago de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les consultations initiées par le chef de l'État ont pris une autre allure cette semaine. Reçu lundi par le président Joseph Kabila, Léon Kengoua Dondo, président du Sénat, autorité morale de la plateforme politique opposition républicaine, a souligné qu'il s'est rendu auprès de Joseph Kabila parce qu'il soutient le dialogue. Il évolue ainsi à contre-courant de sa plateforme politique qui, il y a une dizaine de jours, avait rejeté ces discussions. Joseph Kabila a reçu également la société civile de la RDC. La coordinatrice de cette organisation s'est même proposé le rôle de facilitateur. Les consultations initiées par le chef de l'État il y a un peu plus d'une semaine sont toujours boudées par une frange de l'opposition congolaise. En tête, l'UDPS, l'UNC et le MLC. Ce mardi, font le tour au Palais de la Nation, Aubin Minako, secrétaire général de l'AMP, et Thomas Louaka, président du MLC libéral. Les consultations vont se poursuivre. Joseph Kabila devrait recevoir les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. De Kinshasa, Eric Ambagou de Top Congo pour VOA Afrique.
Une magistrate de Toulouse, dans le sud-ouest de la France, a émis ce mardi un avis défavorable à la demande d'extradition de Joseph Habyarimana, un Français de 57 ans, vers son pays de naissance, le Rwanda, qui l'accuse d'avoir participé au génocide de 1994. C'est ce que rapporte l'agence France-Presse qui précise que le tribunal rendra sa décision le 15 septembre. L'avocate générale, Mme Florence Galtier, a fait valoir le non-respect des principes de légalité des peines et de non-rétroactivité des lois si Joseph Habyarimana était jugé dans son pays d'origine. Le Rwanda souhaite en effet le juger pour complicité de génocide et de crime contre l'humanité, alors qu'il n'existait pas de peine incriminant le crime de génocide dans ce pays en 1994.
Le président béninois Thomas Boniyai réitère sa promesse de ne pas briguer un troisième mandat en 2016. « Mon nom ne figurera plus jamais sur aucun bulletin de vote », a déclaré le président béninois à l'issue d'un entretien à Paris avec son homologue français, François Hollande. Au cours de cette rencontre, les deux présidents ont notamment évoqué les questions de sécurité régionale. M. Boniyai a par ailleurs confirmé que François Hollande se rendra au Bénin le mois prochain.
Au Cameroun, la Cour suprême confirme la condamnation à 25 ans de prison de l'avocate française d'origine camerounaise Lydienne Yenneyoum. C'est ce que rapporte l'AFP. Elle avait été condamnée en 2014, on se le rappelle, pour détournement de fonds.
Madagascar, Lanto Rakotomanga, député hostile au président, a été interpellé la nuit passée. D'après des journalistes locaux interrogés par l'AFP, une importante somme d'argent a été retrouvée dans son véhicule perquisitionné. La députée n'a cependant pas été arrêtée. Cet incident survient en pleine confrontation politique entre le président Herry Rajaonarimampianine et le Parlement qui a voté sa destitution il y a 15 jours. La Haute Cour constitutionnelle doit encore se prononcer et pourrait invalider le vote. Son avis pourrait tomber dès aujourd'hui.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise au Yémen, le parti de l'ex-président Ali Abdallah Saleh, allié aux rebelles chiites Houthis, a favorablement accueilli les prochains pourparlers de paix de Genève. Le Congrès populaire général précise toutefois que ses membres n'y ont pas encore été invités. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncé samedi que des pourparlers de paix pour le Yémen allaient se dérouler à partir du 14 juin à Genève, en Suisse. Il a réitéré son appel urgent à toutes les parties à engager les consultations de bonne foi et sans conditions préalables dans l'intérêt du peuple yéménite. Le conflit au Yémen a déjà fait plus de 2000 morts.
En Libye, les djihadistes du groupe État islamique affirment avoir désormais le contrôle total de la ville de Sirte. Des précisions avec Claire Morin-Gibourg.
C'est par le biais d'un message diffusé sur les réseaux sociaux que le groupe État islamique a annoncé avoir pris le contrôle d'une centrale électrique à l'ouest de Sirte, tout en ajoutant qu'ils ont chassé tous les ennemis de la ville. Une source militaire a confirmé à l'agence Reuters que les forces loyales au gouvernement autoproclamé qui contrôle la capitale Tripoli se sont effectivement retirées du site de la centrale après l'attaque lancée par le groupe État islamique mardi matin. L'organisation sunnite fondamentaliste a profité du chaos qui s'est instauré en Libye avec la présence de deux gouvernements rivaux pour s'implanter dans plusieurs villes, dont Sirte, ville natale de Muammar Kadhafi. Dans le même temps, des délégations des deux gouvernements libyens sont au Maroc pour un nouveau round de négociations sous l'égide de l'ONU. Les Nations Unies tentent d'arriver à la création d'un gouvernement d'union nationale afin de sortir le pays du chaos. Les délégations sont sous la pression de la communauté internationale, inquiète notamment de l'implantation et de l'expansion du groupe État islamique en Libye.
Sachez aussi que le médecin italien enlevé en Libye en janvier a été libéré. Le ministère italien des Affaires étrangères, cité par l'AFP, indique qu'il se trouvait ce mardi à Tripoli en bonne santé, en attente de rentrer dans son pays. Âgé de 68 ans, il avait été enlevé le 6 janvier par un groupe de djihadistes liés aux islamistes radicaux d'Ansar al-Sharia, selon les médias italiens.
L'Égypte, dans le collimateur de Human Rights Watch, l'ONG américaine dénonce les violations des droits humains commises durant la première année au pouvoir du président Abdel Fattah al-Sissi. En face, le régime égyptien accuse Human Rights Watch de soutenir le terrorisme et de répandre des mensonges.
Vous vous souvenez peut-être de la bousculade qui avait fait 74 morts dans un stade de Port Saïd en Égypte en février 2012. Eh bien, un tribunal égyptien a confirmé aujourd'hui les peines de mort infligé à 11 supporters pour les émeutes déclenchées à l'issue d'un match de football.
Quatre personnes ont trouvé la mort dans un incendie près de Kiev, la capitale ukrainienne. En début de soirée, les sapeurs-pompiers avaient partiellement maîtrisé les flammes qui ont embrasé un dépôt pétrolier. Les autorités ont ordonné l'évacuation de la zone envahie par une épaisse fumée noire. Pour l'instant, fait remarquer l'AFP, les enquêteurs semblent privilégier l'hypothèse d'une négligence, rien n'accréditant, selon la présidence, celle d'un attentat terroriste.
La Grèce, surendettée, a offert un nouveau plan de réforme économique à ses créanciers internationaux ce mardi. Les détails des nouvelles idées d'Athènes envoyées à ses prêteurs n'ont pas été divulgués, mais certains responsables ont dit avoir mis l'accent sur les objectifs budgétaires révisés pour le gouvernement aux abois et de nouvelles façons de générer des revenus. Le nouveau gouvernement de gauche radicale de la Grèce est engagé dans un bras de fer avec ses créanciers, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et les voisins européens de la Grèce sur la mise en œuvre des réformes d'austérité en cours prises par les gouvernements grecs antérieurs. Athènes cherche à débloquer plus de 8 milliards de dollars en espèces avant que son plan de sauvetage international n'expire à la fin du mois.
Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco ce soir avec Claire Morin-Gibourg.
Au Burkina Faso, le procès en assises de l'ancien directeur général des douanes, Ousmane Guiro, débutera jeudi. C'est ce qu'a annoncé le procureur général près de la cour d'appel de Ouagadougou. Ousmane Guiro, ancien DG des douanes sous le régime de Blaise Compaoré, a été accusé courant le premier trimestre 2012 de corruption passive, d'enrichissement illicite et de violation à la réglementation des changes et des recels. En Côte d'Ivoire, une campagne de lutte contre les assureurs non agréés a démarré hier à Sassandra et à Grand Bassam et va s'étendre à 7 autres localités de l'intérieur du pays. Cette campagne de sensibilisation sur le rôle et l'importance de l'assurance dans l'économie nationale est à destination des acteurs politiques et économiques, mais également à l'attention des forces de l'ordre. Au Sénégal, la Chine a conclu un prêt de 416 milliards de francs CFA avec le gouvernement pour financer l'autoroute à péage de Thiès-Touba. Les travaux devraient durer près de 4 ans. Cette autoroute de 113 km desservira notamment Kaolack, Linguère, Dara, Matam et Somone.
Merci Claire Morin-Gibourg pour la Minute Éco.
Passons tout de suite à l'actualité sportive avec Nicolas Pinault. Salut Nicolas.
Bonsoir chérubin.
Coupe du monde féminine au Canada, ça démarre fort pour le Cameroun.
Petit événement à Vancouver où, pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde féminine, deux débutants s'affrontent. L'Équateur et le Cameroun, eh bien, les Lionnes indomptables ont rugi la nuit dernière. Victoire 6-0. Les Nigérianes ont eu moins de chance puisqu'elles ont été accrochées 3-3 par les Suédoises. C'est Francisca Ortega qui a permis aux Super Falcons d'arracher ce match nul. Dans les autres rencontres de la nuit, les États-Unis aux commandes du groupe D après leur victoire 3-1 face aux Australiennes. Enfin, l'équipe féminine du Japon s'est imposée 1-0 contre la Suisse.
Parlons maintenant de la Coupe du monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande, Nicolas.
Aucun match ce mardi, les huitièmes de finale commencent la nuit prochaine. Dès 4h du matin, temps universel, jeunes maliens et ghanéens s'affrontent pour un billet pour les quarts de finale. Et à 7h30, temps universel, le Sénégal fera face à l'Ukraine. À noter aussi les deux autres rencontres, Serbie-Hongrie et États-Unis-Colombie.
L'entraîneur du FC Barcelone prolonge l'aventure en Catalogne.
Oui, 3 jours après la victoire du club catalan en Ligue des Champions, le Barça a prolongé le contrat de son entraîneur Luis Enrique jusqu'en 2017. C'est ce qu'a annoncé son président Josep Maria Bartomeu. On retiendra cette saison pour le Barça la triple victoire, Ligue des Champions, Liga et Coupe du Roi.
Et la finale de la NBA, troisième match la nuit prochaine.
Oui, après être revenu à une victoire partout, l'équipe de Cleveland et sa star LeBron James reçoivent Golden State.
Voilà, merci Nicolas Pineau pour cette page sport.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Chérubin Dorcil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Bénin.
Eh bien, les réactions commencent, Nathalie, suite à la promesse ferme de Thomas Boniayi de ne plus se porter candidat. Lors d'une visite en France, le président béninois a réitéré sa volonté de ne pas briguer un troisième mandat en 2016. « Mon nom ne figurera plus jamais sur aucun bulletin de vote », a-t-il déclaré à l'issue d'un entretien à Paris avec son homologue François Hollande. On écoute ce soir la réaction de Maître Sadiku Alao, président du groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social, GERDES Afrique.
Ça m'étonnerait qu'il veuille dire que plus jamais, parce qu'il est relativement jeune, il ne sera candidat à aucune élection législative. Parce que là, au moins, il n'y a pas de limitation d'âge ni de mandat. Donc c'est possible quand même qu'il soit un jour candidat aux élections législatives ou alors municipales, pourquoi pas. Il peut être maire de sa ville, c'est déjà arrivé.
Cela ne semble pas vous surprendre, M. Alao.
Ah non, pas du tout. Il était clair qu'il ne pouvait pas se représenter aux élections présidentielles puisqu'il a déjà épuisé les deux mandats. Donc il n'y a rien de surprenant là. Ce qui est peut-être surprenant, c'est le caractère péremptoire de la déclaration qui concerne toutes les élections législatives et local. Rien n'empêche qu'il puisse se présenter un jour à des élections locales. Je ne crois pas qu'il ait très bien parlé, parce qu'au Bénin, on a vu l'ancien président de la République devenir maire.
Est-ce que cette déclaration du président Thomas Boniayi aura pour effet de calmer un peu les critiques qui l'accusaient de vouloir modifier la Constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat?
Par principe, il n'est pas possible, voire facile, pour un président sortant de vouloir briser la règle de deux mandats au Bénin. C'est trop compliqué. Même y penser, bon, c'est normal, on peut avoir des ambitions, on peut rêver, mais à réaliser cela au Bénin, c'est trop compliqué. Le contexte sociopolitique au Bénin ne rend pas facile la mise en œuvre de tels rêves, parce que tous les hommes d'État restent à rêver au pouvoir aussi longtemps que possible. Mais au Bénin, c'est extrêmement difficile. Il y a eu beaucoup de surenchères sur les intentions du président Boniayi. Tout le monde sait que, très sérieusement, même s'il lui était arrivé d'avoir de telles ambitions ou un tel rêve, tout le monde, même ses adversaires les plus virulents, savent que c'est quasiment impossible.
Comment voyez-vous la réalité politique actuelle au Bénin, M. Alao?
Pour tous ceux qui souhaitent le départ de Boniayi, il y a une coalition pour que l'essentiel, c'est qu'il quitte le pouvoir sans que le problème de fond soit résolu. Parce que le problème de fond, il reste un problème économique. Et un peu, les gens y vont légèrement en recherchant l'homme providentiel. Mais la réalité, c'est que tant qu'on ne sera pas attaqué véritablement au problème économique du pays, je crois qu'on continuera de rêver et de tendre la main politiquement. C'est malheureux à dire.
Maître Sadiku Alao de GERDES Afrique, que j'ai joint à Cotonou.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré cette semaine à la question du troisième mandat. S'éterniser au pouvoir en changeant la Constitution est-il un mal africain? Le 21e siècle est-il celui de l'alternance politique sur le continent? Et les Occidentaux doivent-ils imposer leurs pratiques démocratiques aux pays africains? Nous vous invitons à en débattre sur notre page Facebook et rendez-vous ce jeudi dans notre émission 19h temps universel sur VOA Afrique.
Reporters sans frontières s'insurge contre des mesures prises à 4 mois des élections en Guinée. La haute autorité de communication a publié une nouvelle version de ces mesures après une réaction des médias guinéens. Mais des restrictions demeurent, entre autres les articles à caractère éditorial, la chronique, le commentaire, les émissions interactives, les caricatures et récits satiriques ne sont plus autorisés jusqu'aux élections. Eddy Issango a recueilli la réaction du responsable du Bureau Afrique de Reporters sans frontières, Cléa Kahn-Schreiber.
Le timing est déconcertant, que ce genre de direction soit prise 4 mois avant les élections, et puis même jusqu'à la campagne électorale, on voit le lien avec les élections est clairement énoncé par la Haute Autorité de la Communication elle-même. Donc oui, je pense qu'il y a un lien. Alors ensuite, évidemment, il est important que la presse se comporte de façon responsable en période préélectorale et à tout moment d'ailleurs, mais je ne pense pas que ce soit en mettant des restrictions sur le temps de parole des journalistes, le fait de devoir préenregistrer les émissions interactives qui, de ce fait, vous serez d'accord avec moi, perdent de leur interactivité, et en limitant les sujets qu'ils ont le droit d'aborder et le style d'articles qu'ils doivent écrire, qu'on permet un débat public intéressant et pluriel.
Les autorités guinéennes semblent revenir sur leurs décisions. Il semble qu'il y a une nouvelle version de la même mesure qui venait d'être annoncée, n'est-ce pas ?
Évidemment, il y a une réaction extrêmement alors à la fois unie et soudaine de la part de la communauté des journalistes qui se sont insurgés avec raison, je pense, contre cette décision. Donc il y a eu une modification, une décision modifiée qui est passée et qui n'interdit plus l'usage de ces styles d'écrits, mais demande aux journalistes, rappelle aux journalistes qu'ils doivent le faire en respect de la cohésion nationale et l'ordre public. Bon, est-ce que c'est bien nécessaire de devoir préciser ce genre de choses ? Est-ce que dans une directive, j'imagine que dans la loi guinéenne, comme dans toutes les lois sur la presse, sont interdits les appels à la haine et les appels à la violence. Donc je ne vois pas l'intérêt d'aller rappeler ça. Enfin, je trouve que le fait de rappeler ça dans une directive spécialement donnée à 4 mois des élections, quand même, frappe une note assez menaçante pour les journalistes guinéens.
Et vous ne pensez pas que les autorités guinéennes aient cherché à limiter les excès que l'on a, par exemple, lors des émissions interactives, parfois des insultes, parfois on déborde ?
Je ne pense pas que ce soit une directive au préalable, imposée comme ça de façon verticale, qui résolvra ce genre de débordement.
C'était Cléa Kahn-Sriber de Reporters sans frontières.
Cap maintenant sur le Nigeria. L'armée nigériane a transféré son centre de commandement des opérations d'Abuja, la capitale, à Maïdougouri, le fief de Boko Haram, dans le nord-est du pays. Les précisions d'Idrissa Seloudia.
C'est dans cette ville que le mouvement islamiste a vu le jour. Le nouveau président Muhammadu Buhari avait annoncé dans son discours d'investiture cette délocalisation qui vise à mieux faire face aux extrémistes et à leur campagne de 6 ans pour imposer une forme pure et dure de la charia ou loi islamique. Pour Yann Saint-Pierre, un expert de la firme sécuritaire Mossecon, il était plus que temps. Il s'agit d'une décision énorme, une décision très intelligente et à mon avis, elle aurait dû être prise il y a longtemps. C'est une décision temporaire, mais très intelligente, qui permettra de mieux surmonter la lourdeur bureaucratique et d'accélérer le processus et booster le moral des soldats qui verront sur place avec eux leur chef. Muhammadu Buhari a exploité le problème Boko Haram pour battre aux urnes le président sortant Goodluck Jonathan, dont le régime a été incapable d'empêcher les combattants du groupe islamiste de s'emparer de vastes pans de territoire dans le nord-est du Nigeria. Ce n'est que quelques mois avant l'élection présidentielle, en mars dernier, que l'armée nigériane, épaulée par des troupes de pays voisins et des mercenaires étrangers, a pu reprendre la plupart de ces territoires. Avec le QG de son armée au cœur même de la rébellion islamiste, M. Buhari devrait pouvoir mieux superviser les fonds ainsi que les tactiques utilisées par ses soldats, estime le journaliste et analyste Al-Qassim Abdulkadir. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de supervision concernant ses dépenses militaires et la stratégie contre l'insurrection. Donc, nous voyons ici une chose, c'est-à-dire un président, lui-même un ancien général, avoir une idée de la manière dont on fait les choses. Mais cela ne signifie point que ce sera chose aisée pour le président Buhari et ses généraux. Depuis son investiture le 29 mai, Boko Haram a perpétré plusieurs attaques, dont des attentats suicides et des attaques à la roquette à Maïdougouri.
Le HCR chiffre à plus de 100 000 le nombre de migrants et réfugiés arrivés en Europe cette année. Une légère augmentation par rapport à la même période l'année dernière. C'est dans le sud de l'Italie, en Grèce, que l'on note une augmentation dramatique de cet afflux. L'opération européenne Triton a permis de secourir des milliers d'entre eux cette année. Pour faire le point, Timothée Donangmaï a joint à Genève Christiane Bertium de l'OIM.
La grande différence, c'est qu'effectivement, cette année, il y en a beaucoup plus qui vont vers la Grèce que vers l'Italie, un peu moins en Italie. Et les migrants qui sont arrivés en Italie cette année, ils sont venus principalement de l'Érythrée, il y en a plus de 10 000, puis suivis de la Somalie, du Nigeria, de la Syrie, de la Gambie et du Sénégal, alors que ceux qui sont arrivés en Grèce depuis le début de l'année sont essentiellement des Syriens et des Afghans.
Est-ce qu'il faut voir ici un impact de l'amélioration des secours en Méditerranée?
Effectivement, il y a près de 7000 personnes qui ont été sauvées en mer près de la Sicile cette fin de semaine et il n'y a eu aucune perte de vie humaine à déplorer. C'est effectivement extraordinaire et ça prouve que lorsque l'Europe décide de mettre en place les moyens nécessaires, ben le résultat est là et le résultat est positif.
Un problème demeure, c'est l'accueil de ces migrants une fois qu'ils ont effectué la périlleuse traversée.
Effectivement, ces migrants arrivent dans des centres, sont accueillis entre autres par nos collègues de l'Organisation internationale pour l'immigration qui leur donnent des conseils, qui leur expliquent qu'est-ce qui va se passer, qui leur préparent exactement de quels sont leurs droits, ce à quoi ils peuvent s'attendre. Et oui, beaucoup de gens sont dans des centres, mais beaucoup quittent, partent parce qu'ils ne veulent pas rester en Italie, ils ne veulent pas non plus rester en Grèce, ils veulent aller ailleurs en Europe. Donc, il y en a qui partent. C'est vrai qu'on risque de se retrouver dans une situation au cours de l'été où les centres pourraient être débordés parce que les chiffres cette année ne sont guère plus importants que même l'année dernière à la même époque. Il est vrai qu'on pense quand même qu'il va y en avoir davantage maintenant qu'on rentre dans ce qu'on appelle la belle saison où la mer est plus clémente, quoique quand même toujours bien difficile et bien dangereuse pour ces migrants. Oui, il se pourrait effectivement qu'il y ait davantage de migrants qui tentent de faire la traversée dangereuse et risquée pour rejoindre l'Italie ou la Grèce.
Qu'est-ce que l'Europe peut faire de plus face à cette situation?
Je pense que ce que l'Europe doit faire, et le fait en ce moment, c'est de sauver des vies. Et ça, c'est très important. Je crois que, vous savez, l'année dernière, il y a à peu près 6 mois, il y avait encore des politiciens qui disaient, bon, enfin, laissons les migrants couler en mer, comme ça, ça va les dissuader de prendre les bateaux. Ça, c'est des phrases aujourd'hui qu'on n'entend plus, et c'est tant mieux.
Christiane Bertium, porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations, était jointe à Genève.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Merci d'être fidèle à VOA Afrique. Cette édition touche à sa fin. La mise en onde de ce soir a été assurée par Georges Léonard Sagnot. À la console, nous avions Nachwan Kalé, présentation chez Ruben Dorsil et Nathalie Barche.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Les infos, c'est dans une petite minute.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.